Dans le cadre de la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, aujourd'hui, eh bien, on s'intéressera au système de justice québécois. Il existe deux types de procès qui permettent de poursuivre une personne devant les tribunaux, les procès civils et les procès criminels. Et aujourd'hui, on parle avec Sophia Aissaoui, qui est étudiante en droit au Centre de justice de proximité de l'Outaouais, qui nous parlera plus précisément du rôle et des acteurs dans une audience criminelle. Sophia, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Bon, on parle tout d'abord de l'avocat qui est un officier de justice. Est-ce que ce titre-là implique certaines obligations?
Alors, bien évidemment, la profession d'avocat exige le respect d'un code de déontologie rigoureux. Les membres du barreau doivent agir avec honneur, dignité et intégrité à l'intérieur des tribunaux, mais aussi à l'extérieur. Ils doivent donc en tout temps adopter et maintenir dans leurs actes et dans leurs paroles une conduite qui s'affaire à la hauteur des principes sur lesquels se fonde le système judiciaire. Mmh. Mais les avocats ont aussi certaines obligations envers leurs clients de manière directe. Tout d'abord, ils ont un devoir de loyauté, d'intégrité, de diligence, mais aussi un devoir de compétence, qui implique qu'avant d'accepter un mandat, l'avocat est obligé de tenir compte des limites de sa compétence et de ses connaissances. Et par conséquent, s'il estime que son manque d'expérience ou de connaissances met à risque la qualité de ses services, il doit en aviser son client. En somme, l'obligation de compétence est plus une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Et ensuite, l'avocat est tenu par le secret professionnel, ce qui veut dire qu'il doit assurer la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités d'un client qui sont apportés à sa connaissance. Et cela, même à la fin de son mandat ou même après la mort de son client. Et finalement, le professionnel du droit a le devoir d'éviter les conflits d'intérêts. Il s'engage alors à répondre aux besoins et intérêts de son client et il doit se retirer s'il se retrouve dans une situation où il y a un risque que son propre intérêt ou celui d'un tiers puisse altérer l'intérêt de son client et violer le devoir de loyauté qu'il a envers lui.
Et plus précisément, dans le cadre d'un procès criminel, c'est quoi le rôle de l'avocat?
Les avocats criminalistes conseillent et représentent leurs clients en agissant dans leur meilleur intérêt, tout en veillant à ce que les droits de leur client soient protégés tout au long du procès. L'avocat prend donc parti pour son client et il n'est pas obligé de dévoiler toute la vérité et tous les éléments du dossier qu'il a en sa possession, contrairement justement au procureur de la couronne. Cependant, l'avocat doit en tout temps respecter son code de déontologie, donc il doit respecter son devoir de dignité et il ne peut pas avoir recours à des méthodes illégales ou encore user de mauvaise foi pour en arriver à ses fins. Par exemple, si un accusé avoue avoir commis un crime à son avocat, il sera interdit à ce dernier de formuler une défense qui serait incompatible avec les aveux recueillis.
Et là, parlons jury maintenant. Si on écoute la télé, peut-être que dans Indéfendable, dernièrement, on a vu ça. Là. Comment est-ce que les membres du jury sont constitués là, pour s'assurer qu'on a un procès, un processus équitable?
Alors, il faut savoir qu'il y a trois étapes pour constituer un jury. En premier, une liste de jurés est potentielle et constituée à partir de personnes inscrites sur la liste électorale. La deuxième étape, c'est un tableau de jurés qui est constitué à partir de la liste de jurés. Au Québec, ce bassin est généralement composé de 150 personnes. Ensuite, un processus de présélection judiciaire aura lieu à l'arrivée du jury au tribunal. Et au cours de cette phase, le juge demandera si les membres du jury connaissent l'accusé, les avocats ou les témoins. Si c'est le cas, ces jurés-là vont être exclus en raison du risque de partialité ou de conflit d'intérêts. Mmh. Et enfin, la dernière étape, c'est que les membres du jury seront sélectionnés à partir de ce tableau de jury, qui est généralement constitué de 12 à 14 personnes au hasard, car il n'existe aucun droit à une liste de jurés d'une composition précise, ni à une liste qui représente proportionnellement tous les différents groupes de la société canadienne. Dans le fond, le rôle du jury, lorsqu'il y en a un dans un procès criminel, c'est de déterminer si l'accusé est coupable ou non de l'infraction qui lui est reprochée.
Bon, maintenant qu'on vient de régler le cas des jurés, parlons maintenant des témoins. Quelles sont les conséquences possibles en cas de refus de témoigner pour un témoin qui serait cité à comparaître dans un procès?
Alors, si une personne est tenue par la loi de comparaître devant le tribunal et de témoigner, mais ne le fait pas sans une raison valable, elle peut être accusée d'outrage au tribunal et le juge pourrait même émettre un mandat d'arrêt contre elle. Cette accusation peut être traitée rapidement par un tribunal, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix. Et la personne reconnue coupable s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 100 $ et à une peine d'emprisonnement maximale de 90 jours, en plus de pouvoir être condamnée à payer tous les frais liés à la procédure judiciaire et à sa détention. Ainsi, si vous recevez une citation à comparaître, vous devez faire en sorte de vous libérer de vos obligations personnelles et professionnelles afin de pouvoir vous rendre au tribunal. Et d'ailleurs, votre employeur est tenu de vous accorder un congé pour vous rendre au tribunal et il n'aura pas le droit de vous licencier ou de vous pénaliser pour avoir pris ce congé-là.
Bon, parfait. Ça, c'est pour ce qui est des témoins. Parlons maintenant du procureur dans un procès pénal. En quoi consistent ses responsabilités? Puis comment est-ce que ça diffère des tâches et responsabilités de l'avocat de la défense?
Alors, le procureur criminel et pénal, qu'on appelle également procureur de la couronne, est un professionnel du droit chargé de représenter l'État et de poursuivre les accusés. Donc, il ne représente pas la victime et ce n'est pas non plus l'avocat de la victime. Le procureur de la couronne s'apparente plus à un genre d'avocat agissant au nom de la société et son rôle consiste entre autres à présenter des preuves afin d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. Aussi, il faut savoir que les obligations déontologiques du procureur diffèrent de celles de l'avocat. Le procureur a le devoir d'agir avec équité et de maintenir la confiance du public. Donc, toutes ses décisions doivent être guidées par l'intérêt du public. Son rôle n'est pas de condamner l'accusé à tout prix, mais c'est plutôt de s'assurer de la fiabilité de la preuve et que le procès soit juste et équitable. Et cela implique, par exemple, qu'il a l'obligation de dévoiler toutes les preuves en sa possession et qu'il ne peut pas non plus convoquer de témoins surprises, contrairement à l'avocat de la défense.
Parlons maintenant du juge. Quels sont ses rôles et ses devoirs dans un procès criminel?
Le devoir principal du juge est de faire respecter la justice selon les dispositions de la loi. Par conséquent, les juges sont chargés d'examiner et de comprendre attentivement les lois applicables, puis de les utiliser pour évaluer les faits présentés. Le juge a pour rôle de résoudre les conflits entre individus et entre le gouvernement et un individu de manière totalement impartiale. Il écoute attentivement toutes les parties, témoins et représentants légaux, et il attribue des opportunités de parole. Mais il a aussi le devoir de guider la procédure et c'est pourquoi, c'est à lui d'expliquer les règles de droit au jury pendant le procès afin que le jury soit capable d'évaluer les faits présentés. Maintenant, concernant la preuve, le juge examine attentivement les preuves présentées, notamment en évaluant la fiabilité des témoins. Il peut aussi poser des questions pour clarifier certains aspects de la preuve et finalement, le juge détermine l'admissibilité des preuves et rend ses décisions soit verbalement, soit par écrit, sous forme de jugement. À moins qu'un jury soit présent pour prendre cette décision-là.
Et puis maintenant, parlons de la victime d'un crime. Comment la victime d'un crime ou d'une infraction participe au processus judiciaire? Puis ses droits, quels sont-ils dans ce contexte-là?
Il faut savoir que lors d'un procès devant le tribunal, la victime peut témoigner pendant l'audience des actes qui ont été commis à son égard. Elle peut néanmoins ne pas être appelée à témoigner. Dans le procès criminel, chaque partie assigne des témoins à témoigner et la décision revient donc au procureur de la couronne d'assigner à sa discrétion ces témoins. Il peut alors ne pas assigner la victime à comparaître devant le tribunal pour donner son témoignage. Et plus souvent qu'autrement, le procureur prend non seulement en compte des facteurs comme la pertinence du témoignage de la victime, mais aussi des facteurs liés aux droits de la victime. Car durant toute la procédure judiciaire, les victimes ont le droit à la prise en compte de leur sécurité, de leur vie privée, à une protection raisonnable et nécessaire contre l'intimidation et les représailles. Et ils ont même le droit de demander que leurs identités ne soient pas rendues publiques.
Ça, c'était pour la victime. Au niveau des accusés maintenant pendant un procès, comment est-ce qu'on s'assure qu'il va avoir un procès équitable?
Au Canada, tout accusé a droit à la présomption d'innocence. Une personne ne peut donc pas être détenue ou emprisonnée arbitrairement tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par un juge. Mmh. Il faut savoir que cette notion de présomption d'innocence est l'un des piliers les plus importants de notre système de justice. Et concrètement, elle englobe elle-même plusieurs principes. Alors, par exemple, dans un premier temps, ça implique que l'accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. C'est au procureur de la couronne de convaincre le juge et le jury de la culpabilité de l'accusé. Et cela, comme j'ai pu le mentionner tantôt, hors de tout doute raisonnable. Puis pour mettre tout le monde en contexte, le fardeau de hors de tout doute raisonnable se rapproche plus de la certitude absolue que l'accusé est coupable, ce qui veut dire que si à la fin du procès, si le juge ou le jury a encore un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, l'accusé doit obligatoirement être acquitté et déclaré non coupable. Mmh. Ensuite, les accusés ont aussi le droit à un procès juste et équitable, dans le sens où ils doivent avoir le droit d'être représentés. Ils ne devraient pas être contraints à témoigner contre eux-mêmes, ils doivent être jugés dans un délai raisonnable, ils ne devraient pas se voir refuser leur droit à être libérés sous caution, à moins qu'il y ait une raison valable. Et ils ont également le droit de choisir la langue dans laquelle se déroulera le procès.
Bon, voilà qui fait le tour un peu de ces acteurs, justement, là, dans un procès criminel. Maintenant, Sophia Issaoui, étudiante en droit au CJPO, si les auditeurs ont des questions sur ce sujet ou sur d'autres questions, on peut communiquer avec vous?
Bien sûr, ils peuvent toujours nous contacter au CJPO. Ils peuvent nous joindre par téléphone au 1-844-606-4600. Je répète, 1-844-606-4600. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je vous rappelle que le service est gratuit pour tous, peu importe vos revenus.
Sophia, un grand merci, puis on se reparle bientôt.
Merci à toi, Sébastien. Au revoir.